BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 10h pile, vous êtes toujours en direct sur BFM Business pour les experts, avec aujourd'hui autour de la table Olivier Luancy, professeur au CNAM, auteur de Réindustrialiser le défi d'une génération, Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, et Gilles Berset, professeur d'économie à Neoma Business School et auteur de Sauver la démocratie sociale avec Guy Groux et Richard Robert aux éditions Kalman Lévy. On parlait faible productivité juste avant la coupure pub. On va passer à un thème qui est peut-être une des explications de cette faible productivité qu'on n'explique pas toujours bien. C'est la spicardisation de la société. C'est un grand sujet d'économie. Ce sera l'un des sujets de la présidentielle, évidemment. C'est ce tassement des salaires vers le salaire minimum. Bozio et Vasmer ont Antoine Bozio, et j'oublie toujours le prénom de Monsieur Vasmer, Antoine Bozio et Monsieur Vasmer, vous n'avez plus non plus. On vient de publier une nouvelle note au Conseil d'analyse économique sur les allègements de charges, sur les problèmes au niveau du SMIC. 74 milliards, je rappelle ce chiffre totalement dingue, 74 milliards d'allègements de charges aujourd'hui pour faire que le SMIC soit gérable. Est-ce que c'est l'une des explications, la spicardisation du cycle de la société, pardon, Gilles Berset?
Non.
Est-ce que ça peut être une des explications de cette faible productivité?
Ça a sans doute contribué à la chose, ainsi que l'augmentation, d'ailleurs, générale du taux d'emploi, parce que l'augmentation du taux d'emploi en France, qui a été très forte sur les dernières années,
oui,
c'est une augmentation de taux d'emploi des jeunes, des peu qualifiés, et des seniors, des populations dont la productivité moyenne peut être plus basse que celle des autres personnes. Alors, ça c'est un premier point. Deuxième point, quand on a... Faut revenir un petit peu sur les allègements de charges qu'on a créés en 1993. On a créé les allègements de charges, pourquoi? Parce qu'on a un salaire minimum assez élevé en France. Et donc, pour éviter que ce salaire minimum assez élevé mette sur le côté de la route, en dehors de l'emploi, une population très importante et bride notre compétitivité sur certains produits qui font appel à une main-d'œuvre peu qualifiée, eh bien, on a créé les allègements de charges qui sont amplifiés.
Et ça a très bien marché.
D'année.
Bon, à l'époque, c'était effectivement pour favoriser l'emploi non qualifié.
Alors, on a fait faire beaucoup de choses, les allègements de charges.
Et oui.
Certains veulent
faire
encore plus de choses. Mais, néanmoins, la première réflexion qu'on doit avoir, c'est le niveau du SMIC. D'abord, est-ce que le niveau du SMIC est pas trop élevé rapport au niveau du salaire minimum d'autres pays?
Au niveau du salaire médian, vous voulez dire?
D'autres pays. Non, le niveau absolu, pour se comparer à d'autres pays.
Vous dites que le SMIC est trop haut?
Alors, par ailleurs...
Pas très politiquement correct, hein. Vous voulez baisser le SMIC, Gilles Berset?
Attendez, je dis que le SMIC, on pourrait peut-être le concevoir différemment, et quand je présidais le groupe d'experts sur le SMIC pendant près de 8 ans, ce que préconisait cette commission était de laisser peut-être la chose aux mains des partenaires sociaux et d'avoir des processus de revalorisation, une mécanique de revalorisation qui soit moins contraignante que ce qu'elle est en France. Il y a aucun pays dans lequel elle est aussi contraignante. Alors ça, c'est une première chose. Puis une deuxième chose, comme on veut améliorer le pouvoir d'achat des gens qui sont au SMIC, d'une part, et deuxièmement, réduire le coût du travail des gens au SMIC, d'autre part, on empile des dispositifs. Je dirais allègement de charges, d'une part, et puis des prestations, primes d'activité,
donne deux chiffres,
etc., qui sont dégressives avec le niveau du salaire.
Oui.
Et ça aboutit à des choses insensées.
Deux chiffres du rapport Bozio, de la nouvelle note de Bozio et Vasmer. Au niveau du SMIC, le revenu disponible représente désormais, je pensais que c'était moins que ça, 71,9% du revenu médian. Vous êtes au SMIC, le revenu médian des Français, donc 50% au-dessus, 50% en dessous, c'est quasiment les trois quarts. Il y a plus qu'un quart d'écart entre le revenu médian et le salaire minimum. C'est l'un des ratios les plus élevés de l'OCDE. Et dans le même temps, le coût salarial au SMIC ne représente que 44,2% du salaire médian, ce qui est un des niveaux les plus faibles de l'OCDE.
Mais quand vous parlez de revenus, c'est revenus y compris prestations. Je veux dire, un salarié à temps plein, un salarié célibataire à temps plein au SMIC, bénéficie de plus de 230 € par mois de prime d'activité, par exemple.
Et
vous voyez, c'est des choses qu'il faut dire. Donc, le revenu de ces personnes-là ne s'arrête pas au SMIC. Et ces choses-là, ces éléments-là, ces prestations sont très fortement dégressives.
Ils viennent d'être valorisés.
Et en pilant des dispositifs dégressifs sur le coût du travail et sur le revenu des personnes au SMIC, on aboutit au fait que quand on augmente le revenu net d'une personne au SMIC d'environ 100 euros par mois, on augmente le coût du travail pour l'employeur de près de 500 euros par mois.
Oui, ce que rappelle
vous voyez, la disproportion est oui. Absolument... Donc, le salarié au SMIC, lui, il voit les 100 euros, c'est ce qu'il y a en plus dans sa poche, mais l'employeur, lui, voit les 500 euros, c'est ce qui sort de sa poche. Et donc, ça amène, du côté de l'employeur, des réticences à augmenter, et puis ça amène, du côté du salarié, des réticences à faire des efforts pour se former, pour monter au-dessus du SMIC, puisque son effort est peu payant et lui rapporte peu.
Bon, et qu'est-ce qu'on fait alors? C'est le problème de la pente des aides, hein, qui est souligné dans ce rapport. Qu'est-ce qu'on fait, Gilles Bercette?
Mais deux choses. Il faut réfléchir structurellement, il faut repenser structurellement le SMIC, les bas revenus et le SMIC de façon à ce que ce soit moins désincitatif. Et le SMIC, très franchement, il faut le mettre davantage entre les mains des partenaires sociaux. Ça, c'est une première chose.
Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il arrête d'être indexé sur l'inflation, qu'il arrête d'augmenter automatiquement.
Quand je dis le mettre entre les mains des partenaires sociaux, ça veut dire que les partenaires sociaux peuvent être responsabilisés là-dessus. Par ailleurs, on peut peut-être faire des économies d'allègement de charges, accorder aux employeurs pour la raison suivante. On a déployé en France un bouclier tarifaire d'un coût inouï pour les finances publiques. Ça nous a permis d'avoir une inflation plus basse. Pendant des années, on a une inflation plus basse que l'Allemagne.
Ce qui renforce la compétitivité aussi.
Il y a des gains salariales unitaires par rapport à l'Allemagne de plus de 15% depuis la fin de l'année 2019. Vous entendez bien, 15%. Quelque chose de gigantesque.
Excellent.
Ces gains de coûts salariaux unitaires ont été obtenus en partie grâce au déploiement de dispositifs très chers pour les finances publiques.
Ça veut dire qu'on est plus compétitif.
Et de ce côté-là.
Mais que ça a coûté très cher.
L'État peut dire, écoutez, j'ai mis de l'argent sur la table, ça vous a rendu plus compétitif par le bouclier tarifaire.
C'est un peu la méthode chinoise, non, finalement.
Et donc,
on l'a sponsorisé, mais indirectement.
Et donc, je récupère un peu quand même, j'ai un petit retour sur investissement via une réduction des allègements de charges. Et les 2 milliards évoqués sont faibles.
Donc pour vous, c'était une bonne décision.
C'était une bonne décision.
Des allègements, parce que même peut-être les chefs d'entreprise sont vent debout.
Ben oui, évidemment, quand on vous retire quelque chose de votre
poche, vous êtes d'impôts.
Vous êtes vent debout. Mais on pourrait même, je crois, aller même un petit peu plus loin.
Ah. Bon, on va voir, ça peut être sujet à débat. Dans l'industrie, vous êtes un grand spécialiste de l'industrie, Olivier Lancy, les salaires sont plus élevés que
plus
dans
élevés.
Les services. Et souvent, les chefs d'entreprise, les capitaines d'industrie réclament, eux, des allègements de salaire, des allègements de charges sur les salaires plus élevés aussi pour ce gain, les mêmes gains de compétitivité. Est-ce que c'est votre avis?
Ah oui, tout à fait. Enfin, je veux dire, alors il faut savoir ce qu'on veut, encore une fois. Là, on fait un jeu à somme nulle. Le rapport dit bien, je reste à iso-budget, donc je m'occupe juste de la répartition des charges
entre
les différents segments salariaux. On comble un petit peu, l'idée c'est de combler un tout petit peu cette aberration sur le SMIC et on le déplace un tout petit peu au-dessus. Sauf qu'encore une fois, quand vous voulez aller chercher ces gains de productivité, digitaliser votre outil productif, refaire monter des lignes, vous êtes dans des salaires, dans des gammes de salaires qui ne sont pas du tout touchées par ces allègements et qui, au contraire, les payent. Donc, il faut savoir ce qu'on veut, encore une fois. C'est peut-être le lien qu'on peut faire avec l'absence de productivité ou la plus faible productivité. Encore, ce lien n'est pas totalement établi, il est plus intuitif que documenté. Mais oui, on a un sujet. Et puis, encore une fois, je vais revenir. On joue à somme nulle. Si on avait un projet collectif de créer plus de valeur ajoutée, plus de richesse à côté de ça, moi je veux bien à la rigueur qu'on discute comment on déplace le curseur entre le SMIC
et
2,5 milliards
de déficit.
Et puis si on se posait véritablement la question, on l'a évoqué, de la soutenabilité de notre trajectoire budgétaire publique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut continuer? Dans ces cas-là, oui, mais là on fait du paramétrique, je suis désolé de le dire. Où est le projet de création de richesse? Où est le projet collectif de serrer un peu les boulons, parce qu'on sait tous qu'on ne pourra pas tenir. Donc, c'est super sympa de s'amuser avec ça, mais encore une fois, je pense que ça ne nous met pas dans une perspective long terme. On fait du paramétrique. On fait du paramétrique et effectivement, on a un vrai sujet de trappe à emploi sur le SMIC, de paupérisation. J'espère que ce sujet sera un vrai sujet de débat collectif. Moi, je suis étonné. Encore une fois, il y a des chiffres qui le disent, mais il y a aussi des témoignages quand vous allez dans les villes petites et moyennes de paupérisation de la population qui est, je dirais, dans un état différent de l'image qu'on a dans ces plateaux, de l'image qu'on en a à Paris. Oui. Et c'est un vrai sujet de cohésion sociale. Encore une fois, dans un monde, on a dit qu'il était incertain, on sort peut-être d'une crise qui est suspendue, on en aura une autre dans quelques mois ou dans quelques années, comment voulez-vous que la nation puisse aborder ces difficultés sans un minimum de cohésion sociale ? C'est pas le cas aujourd'hui avec une forme de paupérisation organisée par cette smicardisation de la société. Mmh. Voilà. Mais là-dessus, où sont les réponses ? Si c'est le rapport Wassmer-Bosio, je suis désolé, paramétrique.
Eh oui, malheureusement. Merci à nos fidèles auditeurs de me soutenir dans mes trous de mémoire. C'est Étienne Wassmer, bien sûr. Évidemment, Antoine Bosio et Étienne Wassmer. Merci Alternance, merci Astoff et Davidia de ce soutien pour animer l'émission ensemble. Jean-Pierre Petit, votre avis sur ce sujet des allègements de charge.
J'ai eu un employé au SMIC, il y a une dizaine d'années, que j'ai recruté. C'était quelqu'un au support, qui n'avait pas de qualification, etc. Alors, j'ai vu effectivement tous les dispositifs dont j'ignorais totalement l'existence. Il y avait même un dispositif de l'Île-de-France, j'en savais même rien. Enfin bon, bref. Et j'ai, au niveau micro, j'ai juste donné ma réponse micro.
Oui, c'est intéressant.
Voilà. C'était la formation. Voilà. L'effort sur la formation et j'ai monté la qualification. Voilà. Et il fallait faire un effort. Voilà. Fallait y consacrer du temps pour dire les choses clairement.
Mais c'est aussi le rôle de l'entreprise, hein.
Mais c'est pas toujours, dans les TPE, comme moi, c'est pas toujours évident. Sinon, il y a un vrai sujet de productivité, et même de désindustrialisation, parce que, en fait, notre société, enfin, la France s'est spécialisée dans des services à relativement faible valeur ajoutée, hein. Si je regarde hôtellerie, restauration, services à la personne.
Bien sûr, avec le
logistique. Enfin, c'est pas là-dessus qu'on a les plus gros gains de valeur ajoutée. Donc là, à mon avis, le truc s'auto-entretient. Voilà, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile. Voilà.
Bon, vrai débat de la présidentielle. J'espère que vous y voyez plus clair grâce à l'analyse.
Ça veut dire qu'il faut faire un diagnostic réaliste et lucide de la situation.
Et oui.
Enfin, il y a quelques candidats, je vais pas en citer un, qui refusent, qui veulent avoir un discours optimiste avec une définition d'optimiste. C'est il faut pas dire que tout va mal, ok, ou il faut dire que ça va à peu près bien. Mais c'est pas ça l'optimisme. L'optimisme, c'est on fait un diagnostic lucide et réaliste de la situation et on trace un chemin à partir de là qui nous permet de sortir de l'ornière.
C'est l'optimisme de la volonté, le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Il faut effectivement un cap et une stratégie, mais il faut un bilan lucide.
Le rapport du groupe d'experts sur le SMIC est merveilleux pour ça. Année après année, il ajoute des éléments de diagnostic fantastiques. Je dirais que pour le SMIC, le problème, c'est pas d'être au SMIC. Le problème, c'est de le rester.
C'est de ne pas en sortir. Ben oui.
Voilà, le problème, c'est de ne pas en sortir.
Ben oui.
Et donc, c'est là-dessus qu'il faut évidemment travailler.
Formation.
Et pour les entreprises, et pour l'économie, et pour les personnes. Et pour les personnes,
évidemment.
Bien évidemment.
Donner des perspectives, bien sûr. Allez, il faut qu'on avance. Je voulais qu'on parle des retraites aussi avec vous, Gilbert Sept. Supprimer l'âge légal de départ en retraite. C'est l'idée un peu innovante qui sort du côté, alors c'est assez étonnant, à la fois du RN, Jordan Bardella le propose, et Gabriel Attal du côté d'EPR. On laisse la liberté aux gens de partir. Vous voulez partir tôt, vous aurez une petite retraite. Vous voulez partir tard, eh bien vous aurez une plus grande retraite. Bonne ou mauvaise idée, Gilbert ?
Alors, le propos va un peu plus loin. Le propos nous dit, on ne prendra en compte que l'effort contributif. Le nombre d'années, donc d'annuités.
Le nombre d'annuités,
De contribution, le reste on l'oublie. Ouais, je dirais, quand on regarde autour de nous, ça fait quand même du bien de temps en temps, on voit qu'il n'y a pas un seul pays avancé dans lequel il n'y ait pas de référence à l'âge pour le calcul des retraites. C'est ni de gauche ni de droite. On le voit dans tous les pays. Dans l'Italie de Meloni, dans l'Espagne de Pedro Sanchez, dans les pays nordiques scandinaves, en Allemagne, etc. Il y a toujours une référence à l'âge concernant la retraite.
C'est donc que c'est
ça,
utile.
Ça, c'est donc que c'est utile. Alors,
utile à quoi?
On peut être plus malin, plus intelligent que les autres, mais en tout cas, tout le monde le fait. Pour deux raisons. Parce que la référence à l'âge introduit le fait que si on prend en compte que le nombre d'annuités, bien selon qu'on ait commencé plus tôt ou plus tard, ou qu'on ait une carrière interrompue par choix personnel ou par nécessité, eh bien la durée de retraite sera plus ou moins longue. Et donc le coût pour les finances publiques sera plus ou moins fort. Il faut le prendre en compte, bien évidemment. Et puis la deuxième raison, c'est un problème de justice sociale. Qui serait le public le plus pénalisé par l'oubli de la référence à l'âge? Les personnes qui ont des carrières hachées, et en particulier des femmes. Donc, faut être clair. Oui. On a fait Didier Blanchet.
Donc, il y aurait des perdants.
Hein. On a fait Didier Blanchet et moi un papier dans Le Monde sur cette question il y a en janvier qui expliquait ça clairement. Alors, néanmoins, la référence à l'âge en France est très rigide. Elle peut être un petit peu assouplie avec plus de choix individuels. On peut penser, c'est des pistes tout à fait envisageables.
Assouplir, ça veut dire quoi?
On peut, par exemple, prendre une référence, un âge de référence, avec la possibilité de partir plus tôt, plus tard bien sûr, mais plus tôt.
Donc
mais
c'est un système de décote sur
en
cote.
Étant, voilà, avec un système de décote sur cote, mais pas calculé sur le nombre d'annuités, mais calculé sur l'âge de départ, comme ça se fait dans d'autres pays, en Espagne par exemple, ou en Allemagne. Donc on peut réfléchir à ça. Et puis il faudra toujours un âge minimum. Un âge minimum.
Pourquoi?
Qui peut être plus bas.
Pourquoi on pourrait pas dire, à 58 ans, je pars, parce j'aurai que 300 euros de, parce 200 euros de retraite.
Parce que si les gens ont une toute petite retraite, ils sont versés dans des dispositifs de solidarité. Et ça, c'est des dépenses publiques. Donc c'est un choix personnel qui entraînerait un surcroît de dépenses publiques. La SPA, enfin le minimum vieillesse, en l'occurrence. Et donc, il est logique de dire, comme votre choix personnel aura des conséquences inévitables sur les dépenses publiques, eh ben, il faut le prendre en compte. Et mettre. Donc, on pourrait prendre, par exemple, en France, un âge pivot, c'est ce que je propose dans un article récent, de 65 ans, avec la possibilité de partir à 2 ans auparavant, un âge minimum de 63 ans, on y est presque, 62 ans et 3 trimestres. Mmh. Et puis, si vous partez à 64 ans, vous avez une décote, 63 ans,
une
décote encore plus forte, et puis 66 ans, vous avez évidemment une surcote. Donc laissez du choix, et assumez le choix financièrement par l'individu, mais néanmoins, la référence à l'âge est incontournable. Et c'est mentir que de ne pas le dire. Et encore une fois, tous les pays avancés au monde ont une référence à l'âge.
Bon, la liberté, elle est séduisante, c'est vrai, sur le papier.
Oui, elle est séduisante.
L'âge pivot d'Édouard Philippe en 2018 pour la réforme de 2018-2019, est-ce qui avait fait tout bloquer, quoi? On voit qu'il y a une réticence quand même des Français, ce qui pose la question du rapport au travail aussi, d'ailleurs, et des fins de carrière.
Encore une fois, je vais reprendre, je crois qu'on en a, excusez-moi le terme, mais un peu soupé de ce sujet-là. Moi, je me mets du point de vue, alors peut-être pas des consommateurs, mais en tous les cas des chefs d'entreprise. On sait qu'on a un sujet. Quand est-ce qu'on le traite pour qu'on passe à autre chose? Quand est-ce qu'on le traite pour savoir comment on rentre à nouveau dans la course des technologies qu'on est en train de perdre? Quand est-ce qu'on le traite pour se poser des questions de souveraineté sur nos chaînes de valeur? J'étais dans un site hier qui fabrique des molécules actives pour les médicaments. Confirmation de notre dépendance. Donc c'est un industriel qui en fabrique. Confirmation totale de choses que je savais déjà mais qui sont confirmées. On est sur des ordres de 80 à 90% de dépendance sur nos molécules actives. Nous n'avons pas de souveraineté sanitaire. Donc quand est-ce qu'on traite ce sujet des retraites? Je dis pas une bonne fois pour doute, mais qu'on se mette au moins sur une trajectoire qui est stabilisée pour tout le monde et qu'on s'occupe des problèmes de cohésion territoriale, de souveraineté, d'empreinte environnementale pour de bon. Voilà, je pense. Et là, il y a une fatigue qui est légitime.
Ah oui, mais il y a une réticence des Français. Qu'est-ce que vous voulez? Alors peut-être instrumentaliser par les partis.
Il faut savoir si on fait la politique de la France ou des Français. Enfin, c'était une distinction.
Classe politique est tenue par les Français.
Que le général de Gaulle mentionnait souvent. Hein. Donc voilà, il faut augmenter l'âge de la retraite, point barre. Hein. Puis assez fortement d'ailleurs. Hein. Voilà. Moi je suis pour et je suis pour même une confrontation démocratique. Voilà. Et alors, je suis tout à fait d'accord. Alors là, sur la souveraineté numérique, souveraineté.
Ah bah c'est le grand sujet du jour. Hein.
Souveraineté même militaire, hein, n'oublions pas, hein, parce qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Souveraineté énergétique, qu'on voit encore à nouveau. Et heureusement que le nucléaire nous sauve un petit peu. Hein, voilà. Donc, effectivement, on perd du temps. Ce sujet, on l'a abordé, mais bah, ça fait 40 ans que j'en entends parler. Voilà.
Et je dirais, quand Jean-Pierre dit qu'il faut augmenter l'âge de départ à la retraite, c'est pas simplement pour financer les retraites. Non. À la limite, c'est un objectif second par rapport au premier objectif qui est de trouver des marges de manœuvre.
C'est-à-dire
augmenter les taux d'emploi, dont le taux d'emploi des
c'est ce qui manque dans le narratif politique, voilà. Peut-être. Hein, c'est qu'augmenter l'âge légal de départ en retraite, c'est aussi financer l'école de nos enfants. C'est financer un meilleur avenir pour la nation.
Vous trouverez ça dit et répété dans le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui a été publié jeudi dernier.
On peut revenir, Gilbert, sur les conclusions.
Hein. Il est dit de façon forte qu'un allongement de l'âge de départ à la retraite, évidemment, facilite le financement des retraites, mais aussi, comme ça élève le PIB, c'est l'enveloppe de travail, donc le PIB, ça porte des ressources, TVA, IRIS, sans changer les taux de prélèvement, qui permettent de financer l'école, la santé, la défense, la culture, etc. Donc si on veut, si on veut avoir des ambitions, garder nos ambitions en termes d'école, enfin, elles sont faibles hein, pour l'instant, nos ambitions en termes d'école, mais de santé, etc., il faudra travailler plus du côté des jeunes, des peu qualifiés et des seniors.
Passait à 66 ans, par exemple, il faut quand même dire aux gens qu'à 66 ans, un homme a pratiquement 20 ans d'espérance de vie résiduelle, dont une bonne quinzaine d'années en bonne santé.
En bonne santé.
Au sens des définitions les plus usuelles. Et ça, c'est un homme. Une femme, c'est d'accord. Plus élevé encore. Ça doit être 4 ans de plus. Hein. Voilà. Donc, faut le dire, ça. Parce que même à 66 ans, on aurait une durée de vie à la retraite exceptionnellement élevée dans l'histoire contemporaine. Je
pense oui, et puis parmi les plus élevés des pays de l'OCDE.
Et parmi les plus élevés
des pays
de l'OCDE.
Quand on se compare à d'autres pays, on voit que le pourcentage de la vie ou le nombre d'années, l'espérance de vie est comparable entre pays avancés, qu'on passe à la retraite est le plus élevé en France. Voilà. Ah oui. Quand on voit les choses effectives, hein, l'âge des parts effectif, l'espérance de vie.
Ah oui, c'est vu comme un âge d'or, en même temps, on devient rentier, en quelque sorte.
On fait la différence entre les deux.
Ça dépend par qui, hein.
Voilà, c'est
il y a aussi incroyable. Des petites retraites, faut pas oublier. Enfin,
là, je rappelle toujours que la retraite moyenne est de 1500 euros.
Une question globale sur la retraite, avec notamment l'épargne des retraités qui continue à augmenter, en tous les cas, qui ne baisse pas. Alors que normalement, c'est l'âge sur lequel on puise sur ses ressources épargnées pour se maintenir un bon. Donc, on a un vrai sujet. Et à l'intérieur de ça, il y a quand même des situations hétérogènes qu'il va falloir traiter. Et le débat, en plus, dessus. Reprenons en 2022, augmentation de 5%. Des retraites, hein, c'est ça?
2024, oui.
En 2024.
Augmentation de 5,4%, 15 milliards d'euros.
Indifférencié. Mais, enfin, je veux dire, revenons un petit peu sur ces réalités-là. Alors là, oui, je pense qu'on a fait la politique, entre guillemets, des Français et des électeurs, et pas la politique de la France. Je pense que c'est caricatural. Autre sujet, on a débattu ici. Le débat budgétaire d'il y a 6 mois a été incompréhensible. Si on en retire quelques éléments, on sabre à peu près 1 milliard sur l'apprentissage pour suspendre la réforme des retraites. Encore une fois, je sais bien que c'est pas un siphon qui va de l'un à l'autre de manière bijective, mais en termes d'image, bon sang.
Mais quand on regarde les taux de pauvreté des retraités, on est le pays dans lequel il est le plus bas. Il est le plus bas.
Ça a bien changé, 150 ans d'ailleurs.
Il est le plus bas. Quand on regarde le taux de privation matérielle...
On peut s'en féliciter, accessoirement.
On peut s'en féliciter.
On ne cherche pas non plus à appauvrir nos seniors.
Il y a des petites retraites, mais cette question a été sacrément prise en charge déjà par notre système.
Donc, objectif atteint.
Le taux de privation matérielle des retraités, il est 8% en France, équivalent à celui des personnes en emploi. Équivalent à celui des personnes en... et bien inférieur à celui des chômeurs, des jeunes, etc., etc. Donc, on a une situation où la situation relative des retraités, certes, il y a des petites retraites, et puis un retraité, très souvent, n'est pas en situation d'ajouter un emploi à sa retraite. Mais on a une situation des retraités qui est relativement avantageuse quand on se compare à tous les autres pays avancés. Hein, c'est quand même un point qu'il faut souligner.
Bon. Allez, on va terminer avec l'introduction de SpaceX vendredi dernier. L'événement boursier de l'année, de la décennie, du siècle, peut-être la plus grande IPO ever. Ça a pris 50% depuis vendredi, SpaceX, sur des promesses, sur du rêve, quoi. C'est de passer je sais plus si c'est 10 ou 20 milliards de chiffre d'affaires à 1000 milliards, a tweeté Elon Musk week-end. Broum, ça a augmenté de 20% le titre.
Faut savoir quand même que c'est un problème intéressant du point de vue de la bourse, mais c'est macroéconomiquement, ça a des conséquences potentielles. Hein, parce que
expliquez-nous, Jean-Pierre
Petit. Si tu retires l'investissement dans l'IA au cours des dernières années et les effets de richesse additionnels de la bourse, la croissance américaine chute. Et si la croissance américaine, qui représente quand même la consommation des ménages américains, c'est 30% de la consommation mondiale en dollars, faut quand même pas l'oublier. Hein. Voilà. Donc la première source de la demande finale dans le monde, c'est la croissance des 340 demande des 340 millions d'Américains. Alors SpaceX a fait, tu dis 50%, et il a fait la première journée 19%. Oui. C'est très intéressant parce que quand tu regardes les IPO depuis 40 ans, eh bien c'est 19% le premier jour. Voilà.
Aux États-Unis.
Ouais, aux États-Unis. Dans la tech, c'est 30.
Et ben voilà.
Mais par contre, si tu te places 3 ans après, t'as plus rien.
Ah, voilà.
Pourquoi? Bah parce qu'une introduction en bourse, ça ne change pas la valeur de la société en soi. Voilà. Par contre, ça rajoute effectivement des... Alors, il y a des mécanismes additionnels. Par exemple, on est en train d'assouplir les règles d'inclusion dans les grands indices des valeurs de la tech. En termes de profitabilité, en termes de flottant, vous savez que flottant, c'est la partie de la capitalisation boursière qui est librement disponible sur le marché, pour les faire rentrer. Et vu le poids de la gestion passive, ce qu'on appelait avant la gestion indicielle, c'est-à-dire tu achètes des ETF, t'achètes pas SpaceX, t'achètes pas Apple, t'achètes pas même General Electric, t'achètes un indice. Donc tu vas, ils vont rentrer là-dedans. Donc, tu as un effet additionnel évidemment sur la valorisation des boîtes et sur leur volatilité future, parce qu'un grand nombre de gens vont revendre SpaceX au cours des prochaines semaines.
Ah oui, il y en a plein qui ont acheté juste pour profiter du boom du début.
Voilà, des prochains mois. Donc tu as deux effets où tu te rapproches un petit peu des sommets de bulles. Voilà, parce qu'il faut bien distinguer des bulles qui peuvent durer très longtemps. Je rappelle qu'Irving Fisher annonçait la bulle aux États-Unis en 1926 et elle a duré 3 ans et demi de plus. Et entre-temps, tu as fait 300 ou 400% sur la bourse américaine. Donc, une bulle peut durer un nombre de trimestres ou d'années très significatif avant d'atteindre un sommet.
Ouais.
Et dans les sommets, en général, tu as une dynamique d'IPO, enfin d'introduction en bourse très forte, une volatilité, ça peut paraître bizarre, mais la volatilité monte. Donc voilà, et t'as plein d'autres choses. Hein. T'as un resserrement de l'assise de la hausse, c'est-à-dire que la hausse de l'indice repose sur un nombre de plus en plus réduit de valeurs.
Ah oui.
T'avais ça en 2000, t'avais ça en 29. Voilà, donc c'est pour ça que
ça les éléments à surveiller, parce que là toujours la même question. À quel moment sortir, quoi?
Voilà, t'es pas en sommet de bulle au centre, parce que nous on a un indicateur où on est à 100% en 29 ou en 2000. Là on n'y est pas, on était au plus haut à 79. Donc, mais enfin, il y a des signaux orange qui sont quand même un petit peu envoyés. Donc après c'est une affaire de, il va falloir bien suivre ça. Quand même au début du mois de juin, il ne faut pas oublier que le Nasdaq a baissé quand même. Hein.
Oui.
Voilà, alors là, il y a SpaceX qui explose, mais le Nasdaq connaît des corrections.
Après des valos complètement dingues.
Oui, alors pas aussi dingue qu'en 2000, pas aussi dingue qu'en 29, mais enfin très élevé. Je suis d'accord. Des petits signes orange, hein. C'est important pour les investisseurs, mais c'est important pour l'économie mondiale. Parce que sans ça, l'économie mondiale sera encore plus en difficulté.
Attention aux petits signaux orange, nous dit le président des Cahiers Verts de l'économie, Jean-Pierre Petit, que je remercie pour cette émission passionnante, ainsi qu'Olivier Luancy, professeur au CNAM, auteur de Réindustrialiser le défi d'une génération. On va en parler encore et encore dans cette émission. Et merci à Gilles Berset, professeur d'économie à Neoma Business School. Je rappelle votre dernier ouvrage, Sauver la démocratie sociale. Ça aussi, ce sera un grand thème de la présidentielle, coécrit avec Guy Groux et Richard Robert aux éditions Kalman Lévy. Tout de suite, vous retrouvez BFM Entreprise spécial outil RH animé par Sandra Gandoin. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, 9h30 en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.